Le pape Léon XIV a célébré ce matin pour nous sa première messe depuis son élection. C'était dans la somptueuse chapelle Sixtine au Vatican. Vous entendrez le pape Léon XIV dans ce journal. Les réactions sont nombreuses après l'élection du nouveau souverain pontife, en Nouvelle-Calédonie avec l'archevêque Monseigneur Calvé, mais aussi en Australie avec le Premier ministre Anthony Albanese. Des réactions aussi à la fin des discussions sur l'avenir institutionnel. Manuel Valls a quitté le territoire sans accord politique. Réaction dans ce journal des différentes délégations. Un accident de la route mortel hier à Païta, un nouveau drame qui porte à 12 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. C'est la 26e édition de la fête de la génisse. Aujourd'hui à Koumac, la cuisson de la viande a commencé hier soir. La fête démarre à 8h sur le champ de foire. Et puis du sport, plusieurs rendez-vous sur le territoire ce week-end, de la natation avec le meeting du CNC, mais aussi avec la Coupe de Calédonie de surf à Bouraï. Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Et à la une de l'actualité ce samedi matin, l'actualité religieuse, le nouveau pape Léon XIV célébrait ce matin pour nous sa première messe depuis son élection. C'était forcément dans la somptueuse chapelle Sixtine au Vatican, en présence de tous les cardinaux. Plusieurs messages forts distillés dans cette première homélie, message qui donne le ton du pontificat.
Nombreux sont les contextes où la foi chrétienne est considérée comme absurde, réservée aux personnes faibles et peu intelligentes. Des contextes où on lui préfère d'autres certitudes, comme la technologie, l'argent, le succès, le pouvoir, le plaisir.
Un extrait de la première homélie prononcée par Léon XIV dans la chapelle Sixtine. Dimanche, à la mi-journée, le nouveau pape sera au balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome pour présider la prière Regina Coeli. La messe d'inauguration du pontificat est prévue le dimanche 18 mai sur cette même place Saint-Pierre. Le cardinal Robert Francis Prévost, premier pape américain de l'histoire, a donc été désigné hier lors du conclave par les cardinaux électeurs. Cette réunion à huis clos n'aura finalement duré que 24 heures, signe que cet augustinien de 69 ans fait relativement consensus. Frédéric Michel est l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1 au Vatican. Il a pu échanger avec des cardinaux ayant participé au conclave. Ils ont raconté une partie des coulisses.
Oui, la désignation du cardinal américain Prévost après seulement 4 tours démontre que cet homme de terrain et de gouvernance a séduit et surallié sur son nom les différents courants de l'Église, des réformateurs aux conservateurs. Le cardinal d'Ajaccio, François Bustillo, lève un peu le voile sur cette élection.
Nous ne sommes pas du tout dans la tactique et la stratégie, on était dans la simplicité et la confiance. Et moi, j'ai beaucoup admiré son oui, je lui ai dit merci pour son oui. Il n'est pas évident d'accepter la charge, la responsabilité d'être pape.
Et c'était une évidence, nous confier juste après la première messe du pape dans la chapelle Sixtine, le cardinal franco-algérien Jean-Paul Vesco.
Quand il y a une campagne, ben on le sait très bien, on va filmer le camp de ceux qu'on gagnait, ouais, le camp de ceux qu'on perdu. Oh. Et là, il n'y avait pas de camp et il y avait la joie sur tous les visages. Il n'y a pas de perdants, mais il n'y a que des hyper gagnants.
Le cardinal Vesco nous a ensuite raconté ce qui s'est passé juste après l'élection.
Il est comme nous, en rouge, il part par une petite porte. Un quart d'heure après, il revient, ça y est. Elle, papa. Et ben nous, on est allé à Sainte-Marthe, et puis on se préparait pour le dîner, et il est venu dîner, voilà, dans son habit. Ah, mais il y avait ce qu'il fallait pour boire, c'est... Oui, bien sûr qu'on était heureux de fêter ça.
Heureux, et peut-être soulagé de ne pas avoir été retenu au secret pendant de longues journées.
Et partout dans le monde, des catholiques ont fait connaissance avec leur nouveau pape. Des messes sont et seront célébrées en l'honneur de Léon XIV, à Notre-Dame de Paris notamment, mais aussi en Nouvelle-Calédonie. Le diocèse de Nouméa se réjouit de l'élection de Léon XIV. Le nouveau pape a été élu hier matin pour nous, après 4 tours de vote, on le rappelle, lors du conclave qui s'était ouvert la veille à Rome. Une élection que l'archevêque émérite de Nouméa a suivie avec intérêt. Monseigneur Calvé qui a appris la bonne nouvelle tôt hier matin.
Une réaction de joie et d'action de grâce parce que c'est important pour l'Église, c'est important pour le monde qu'il y ait un pape à la tête de l'Église. Je ne le connais pas du tout. C'est quelqu'un que j'ai découvert, qui est assez jeune, et quelqu'un qui a une trajectoire, une expérience qui est intéressante, que personne n'imaginait dans la fonction de pape, mais l'Esprit-Saint a trouvé... son candidat. Évidemment, tous ceux qui avaient été annoncés comme entrant pape au conclave, sont ressortis comme cardinaux. C'est le proverbe qui s'est réalisé.
Et comme beaucoup de catholiques, Mgr Calvet va apprendre à connaître le nouveau pape. Il a aussi réagi au nom qu'il a choisi pour son pontificat, Léon XIV.
Pour moi, ça évoque deux papes. Le premier qui a porté le nom de Léon, c'est Saint Léon le Grand, un grand pape de la haute époque qui a été très important dans la théologie, par exemple, dans le bréviaire, dans la prière officielle de l'Église. Les sermons de Saint Léon le Grand sur la fête de Noël sont restés célèbres à tel point qu'on les utilise toujours comme lecture. Et puis, il y a un autre, Léon, qui a marqué l'Église, c'est Léon XIII, dans une période beaucoup plus moderne, qui a été le pape qui a commencé à mettre en ordre ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, en rattachant cela à la doctrine chrétienne fondamentale, ce qui peut être dit sur la société et la nécessité d'y respecter les personnes, la justice, etc.
Et des propos recueillis par Kélinda Boicou. Notez qu'après l'élection de Léon XIV, l'archevêque de Nouméa, Mgr Sioné Poé, présidera une messe d'action de grâce. Ce sera mardi prochain, le 13 mai à 18h, en la cathédrale Saint-Joseph de Nouméa. Et puis toujours à propos de l'élection hier matin du pape Léon XIV, à Canberra, le premier ministre australien Anthony Albanese a félicité le nouveau souverain pontife. Il l'a invité à se rendre en Australie. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Anthony Albanese a déclaré dans un bref communiqué que, je le cite, « Aujourd'hui est un jour mémorable pour les catholiques du monde entier et les fidèles australiens, et je me joins à eux pour féliciter leur Saint-Père, le pape Léon XIV, suite à son élection. Canberra, a-t-il poursuivi, invitera sa sainteté à venir en Australie pour le congrès eucharistique international qui sera organisé en 2028. Puisse le pontificat du pape Léon XIV faire progresser la cause de la paix et de la justice sociale pour toute l'humanité, a conclu le communiqué. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
7h07, on marque une première pause dans ce journal avant de voir tout ce qui fait l'actualité sur le territoire.
Démonter dans ta belle auto pour venir au marché de Farino.
Le marché de mamie spécial fête des mères, c'est ce dimanche 11 mai de 8h à midi. Venez célébrer toutes les mamans dans une ambiance chaleureuse et gourmande. Street food, saveurs locales, artisans du savoir-faire, produits frais, plantes, jardins, cuisine maison et bien d'autres encore. Un moment délicieux et convivial à partager en famille ou entre amis avec des prix en circuit court. Le marché de mamie vous accueille à la mairie pour un beau dimanche joyeux et gourmand à Farino.
Tous les dimanches de 5h à midi, c'est la foire aux affaires au drive-in du Pont des Français. Vide-grenier, brocante, plantes vertes, places à emporter et beaucoup d'autres bonnes surprises à ne pas rater. Louez un stand au 24 39 01 au 174 rue Auguste Bénébig à Magenta. Entrée par le showroom Mazda.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'Info Week-end et l'actualité sur le territoire, Léo Fichou.
Oui, avec ce tragique accident de la route hier aux alentours de 14h30 à Païta, un homme est décédé après avoir perdu le contrôle de son véhicule qui a terminé sa route dans le fossé. L'accident qui n'impliquait qu'un seul véhicule s'est produit sur la RT1 au pied du col de la Pirogue dans le sens sud-nord. Le conducteur d'un certain âge et qui présenterait des problèmes de santé se serait endormi au volant. Le passager blessé a été pris en charge par les pompiers puis évacué vers le Médipôle. Ce nouvel accident porte à 12 le nombre de morts sur les routes calédoniennes depuis le début de l'année. Sonia Backès revient sur l'échec des négociations sur l'avenir institutionnel. La chef de file de la délégation loyaliste était hier midi l'invitée d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Elle a été interrogée sur le déroulement des discussions, sur le positionnement de Manuel Valls et sur les conséquences de l'absence d'un accord. Une interview de Sonia Backès qui sera rediffusée demain soir juste après notre édition de 17h45. Elle est aussi disponible dès à présent en audio et en vidéo sur notre site internet le www.rrb.nc. Et ce matin, ne manquez pas à partir de 11h la rediffusion du club politique de Radio Rythme Bleu. Les consultants du club ont dressé le bilan de la visite de Manuel Valls et se sont interrogés sur l'échec des discussions, ses raisons et ses conséquences, mais aussi sur les différentes réactions que cela suscite. Ils ont aussi évoqué l'élection du pape Léon XIV, un club politique que vous pouvez aussi retrouver en podcast audio sur le site de Radio Rythme Bleu. Et puis d'autres réactions après ces discussions sur l'avenir institutionnel, c'est un rendez-vous manqué, estime Philippe Dunoyer pour Calédonie Ensemble. Un échec collectif puisqu'il n'y a pas eu d'accord. On sait que les discussions ont débuté autour du projet présenté par Manuel Valls qui a, semble-t-il, heurté certaines sensibilités. Nous avons demandé à Philippe Dunoyer si c'était la bonne méthode.
Je ne peux pas vous dire si la méthode était bonne ou n'était pas bonne. Elle était forcément pas la meilleure puisqu'on n'est pas parvenu à quelque chose, mais c'est bien au-delà des projets qui ont été présentés, que ce soit celui déposé par le ministre, que ce soit celui exposé par les loyalistes du Rassemblement. Ces projets-là, puisqu'ils devaient faire l'objet de négociations, n'auraient pas été les projets validés à la fin. Hein, parce que sinon, il y a un projet qui arrive, il faut signer en bas, ça s'appelle pas une négociation. Peut-être que la méthode était mauvaise dans le sens où tout est arrivé d'un seul coup, peut-être que c'était mal exposé, peut-être que aussi il y avait des points qui l'ont emporté sur d'autres et qui ont fait que du coup les discussions n'ont pas permis d'avancer. Mais sur le coup, évidemment, c'est décevant. Et je sais que les Calédoniens sont déçus à juste titre. Et on peut pas se résoudre à rester sur cet échec.
Et Calédonie Ensemble, de son côté, annonce vouloir prendre des initiatives dans les prochaines semaines pour tenter une ultime fois de convaincre les forces politiques du pays qu'un accord est bien évidemment possible. Le FLNKS, lui, semble plutôt satisfait de la proposition posée par le ministre des Outre-mer, Michael Duneski.
La proposition de Manuel Valls est en cohérence avec le projet d'accord du FLNKS remis le 30 avril au ministre des Outre-mer. Dans un communiqué signé d'Emmanuel Tchibaou, le FLNKS relève que le projet de l'État pose les bases d'une nation avec des liens d'État à État avec la France. Un projet qui se décline par le transfert des compétences régaliennes à la Nouvelle-Calédonie avec délégation immédiate à la France pour certaines d'entre elles, l'instauration d'une double nationalité et la définition d'un statut internationalement reconnu. Cette proposition intègre les attributs même d'un État souverain et s'inscrit dans le processus de décolonisation initié par les accords de Matignon et de Nouméa, ajoute le FLNKS, qui estime que l'État a franchi un pas dans sa responsabilité, ses engagements devant les Nations Unies de décoloniser le pays. Il précise que, néanmoins, ce projet devra être consolidé pour tenir compte de l'ancrage du pays dans sa région et du contexte géopolitique instable. Notez que dans ce communiqué, le FLNKS appelle à la vigilance et à l'apaisement à l'approche du 13 mai.
Réaction également de l'UNI, Michael.
Oui, toujours par voie de communiqué. Le mouvement indépendantiste revient sur les 3 jours et demi de discussion à Deva entre un projet de souveraineté avec la France et celui d'un fédéralisme au sein de la République. Aucun consensus n'a pu se dégager. Sans surprise, l'UNI dit s'inscrire dans le projet de souveraineté avec la France proposé par l'État qui se prononce en faveur d'un partenariat privilégié avec la France. C'est la première fois, note l'UNI, que l'État français offre une perspective plus ouverte pour trouver une solution d'avenir plus conforme à l'évolution du pays depuis 1984 et aux engagements internationaux en matière de décolonisation. L'UNI souligne enfin que la majeure partie des délégations ont pris fait et cause pour l'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté dans un partenariat à définir avec la France, mais parle d'une impasse créée par les loyalistes et le Rassemblement. Seul bémol pour l'UNI, la proposition d'organiser les élections provinciales avant le mois de novembre. Cela engagerait dans une succession de campagnes électorales avant les municipales de 2026 et les présidentielles de 2027, ce qui n'est pas, note l'UNI, un gage de construction, de cohésion et de refondation.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, 94% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils comprennent que les négociations autour du projet d'indépendance associé qui était porté par Manuel Valls n'est pas abouti à la signature d'un accord. Ils ne sont que 6% à dire qu'ils ne le comprennent pas. Merci pour votre participation et rendez-vous, vous le savez, lundi pour une nouvelle question du jour.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Koumac, c'est le 99.
Et à Koumac, c'est un long week-end animé qui a débuté jeudi. La commune vit au rythme de la fête de l'écotourisme sous la devise « Koumac, c'est Kalolo ». Un événement placé sous le signe de la nature, du patrimoine et des savoir-faire locaux. Le point d'orgue de ce week-end découverte, c'est bien évidemment la 26e fête de la génisse. Au programme, en plus de la dégustation prévue aujourd'hui à 11h30, les visiteurs pourront profiter de nombreuses animations, notamment les jeux équestres. Les précisions de Christophe Chiara, le président du comité de foire de Koumac.
On a diverses animations, donc les fameux jeux équestres de la fête de la génisse, donc Pour les amateurs de chevaux, donc barrel race, course de stock, petit parcours, grand parcours. Il y a une bonne dizaine de courses qui sont organisées au long de la journée. On a travaillé cette année, un peu comme l'année dernière d'ailleurs, avec le marché océanien pour amener encore plus de produits locaux sur la fête de la génisse. Et puis pour que à un seul endroit, on retrouve un peu tout le nord, on va dire ça comme ça. Il y a le marché de Gomène qui est avec nous aussi. Il y a des gens du marché de Vaux et des gens du marché de Pointe-Bout. Des stands, on est aux alentours de 60 stands. De tout, en fait, des plantes vertes, un peu de restauration. Alors la restauration, c'est particulier parce que l'événement phare, c'est la génisse, donc des accompagnements, des produits tahitiens, des salades tahitiennes, du poisson. Il y a tout ce qui est produits vivriers, produits locaux. Voilà, on va trouver un peu de ce qu'on trouve un peu en général dans nos marchés ou dans nos fêtes de village, quoi.
Et rendez-vous dès 8h et jusqu'à 15h sur le champ de foire de Koumac pour la 26e édition de la fête de la génisse à la broche. Dans le Grand Nouméa aussi, il y a de quoi sortir ce week-end. Au Mont d'Or, le marché de Boularim et Tahiti à l'honneur avec une journée spéciale Polynésie. Les visiteurs peuvent trouver sur place des spécialités culinaires du Fénois, mais aussi, bien évidemment, de la musique et des danses tahitiennes. Le marché a débuté à 6h et il dure jusqu'à 13h. Et puis en centre-ville, c'est bien sûr le vide-grenier de la place des Cocotiers qu'il ne faudra pas manquer demain matin. Dès 7h, les brocanteurs retrouveront la place des Cocotiers avec près de 250 stands. De la restauration et aussi de la musique. Le vide-grenier prendra fin à midi. 7h16, deuxième pause dans ce journal avant de faire le point sur l'actualité en métropole et dans le monde.
Le comité de foire de Koumac et du Nord vous attend le samedi 10 mai sur le champ de foire de Pandop pour la dégustation de la génisse à la broche à 11h30. Dès 8h30, vous pourrez assister aux Jeux équestres. Alors samedi 10 mai, c'est Go Koumac, le carrefour du Nord pour un week-end de Kalolo. Renseignements sur Facebook, événements en partenariat avec la mairie de Koumac, Agridis, Lefroy, OCEF, IVNC et l'Agence Rurale.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et l'actualité internationale, Léo Fichou.
Oui, avec ce traité d'amitié franco-polonais qui a été signé à Nancy, Emmanuel Macron et le Premier ministre polonais Donald Tusk s'engagent ainsi à coopérer sur plusieurs sujets comme les questions migratoires et surtout militaires. Le texte contient notamment une clause de défense mutuelle en cas d'agression de la part d'une puissance tierce. La Pologne qui est en première ligne face à la menace russe et c'est aussi l'un des principaux alliés de l'Ukraine. Des alliés qui vont d'ailleurs se retrouver demain à l'occasion d'un sommet européen à Kiev. Pas de confirmation pour le moment, mais Emmanuel Macron pourrait faire le déplacement. Jacques Serret pour Europe 1.
Oui, après son déplacement à Nancy aux côtés du Premier ministre polonais, Emmanuel Macron n'est pas rentré à Paris. L'avion présidentiel vient d'atterrir en Pologne. Tout laisse donc à penser que le chef de l'État s'apprête à se rendre en Ukraine, car dans le même temps, Volodymyr Zelensky annonce la tenue ce samedi d'un sommet de dirigeants européens soutenant Kiev. Demain, nous allons avoir des réunions, a confirmé le président ukrainien, et ce, avec les dirigeants de la coalition des volontaires, a-t-il dit. Ce sommet sera pour partie virtuelle et pour partie physique, a précisé Emmanuel Macron, qui n'a pas répondu à la question sur sa présence physique. Pour des tas de raisons, on parle rarement avant, a-t-il souligné. Pour rappel, la coalition des volontaires regroupe une trentaine de pays alliés de l'Ukraine sous la houlette de Paris et de Londres. Le dernier déplacement d'Emmanuel Macron en Ukraine remonte à juin 2022, durant l'entre-deux-tours des législatives, juste après la présidentielle.
Et ce sommet européen qui apparaît comme une réponse à la parade militaire du 9 mai à Moscou. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement étaient présents sur la place Rouge ce matin. Retour sur cette démonstration de force scrutée par le monde entier avec Arthur Delaborde pour Europe 1.
plusieurs milliers de soldats marchant au pas entre les blindés et autres missiles dernière génération exposés sur la place Rouge. Vladimir Poutine trône au centre de l'attention. À ses côtés, le président chinois Xi Jinping, le brésilien Lula, mais aussi une trentaine de dirigeants africains, asiatiques ou encore européens comme le serbe Aleksandar Vučić et même un membre des 27, le slovaque Robert Fico. Et face à cette tribune diplomatique incarnant un front politique prêt à défier l'ordre établi par l'Occident, le président russe prononce un discours affirmant sa puissance sur la scène mondiale.
La vérité et la justice sont de notre côté. Tout le pays, la société, le peuple soutiennent les participants à l'opération militaire spéciale. Nous sommes fiers de leur courage et de leur détermination. Nous avons une force d'esprit qui nous a toujours apporté la victoire.
Un récit patriotique présentant le conflit contre l'Ukraine comme un prolongement de celui contre l'Allemagne nazie. Ici, la victoire de 1945 sert à justifier les ambitions de 2025.
Un récit d'Arthur Delaborde pour Europe 1. L'actualité judiciaire en métropole, le meurtrier d'Aboubacar Cissé présenté aujourd'hui un juge en vue de sa mise en examen. Cet homme de 20 ans vient d'être transféré vers la France depuis l'Italie où il s'était lui-même rendu à la police fin avril. C'était deux jours après avoir exécuté de plusieurs coups de couteau un jeune malien dans une mosquée du Gard à la Grand-Combe. Un crime perpétré en raison d'une envie obsessionnelle de tuer une personne selon le parquet de Nîmes. Et puis à Paris, l'automobiliste qui a percuté plusieurs piéton près des Champs-Élysées mercredi soir lors des célébrations de la qualification du PSG, c'était pour la finale de la Ligue des Champions, a été pris de panique au moment où des dizaines de personnes s'en sont pris à son véhicule. C'est ce qu'indique aujourd'hui l'avocat de ce chauffeur VTC, toujours en garde à vue et qui est la cible de menaces depuis cet incident qui a fait 3 blessés, dont un grave. 7h21, dernière pause dans ce journal, on parlera sport juste après avec Mickaël Juneski.
Rêvez d'une salle de bain moderne, DCSM vous accueille dans son showroom dédié à l'univers de la salle de bain. Robinetterie, receveur, baignoire, pardouche, WC, meubles de salle de bain.
Venez aménager votre future salle de bain, 5 route de la Baie des Dames à Ducos, 27 74 20 ou sur Facebook.
Brrr, il commence à faire frais, j'aurais bien besoin de nouveaux vêtements chauds. Ne tardez pas, jusqu'au 25 mai, direction Gémeaux pour y découvrir la nouvelle collection hiver qui réchauffera toute la famille à petit prix. Sans oublier les idées cadeaux pour la fête des mères.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite du journal et c'est du sport, Léo Fichou.
Oui, on ouvre ces pages sport avec les sports mécaniques. Un grand rendez-vous ce week-end, Mickaël Juneski, le Grand Prix de France de MotoGP.
Et les pilotes tricolores qui seront soutenus par le public pour cette 6e manche du championnat du monde. Et dès les essais libres, Fabio Quartararo, au guidon de sa Yamaha, a fait forte impression en réalisant le 2e meilleur chrono, se hissant directement en Q2. Sur le circuit du Mans, il n'a été devancé que par l'Espagnol Marc Marquez. Joan Zarco, l'autre pilote français, n'a lui signé que le 12e temps des essais libres. Il reste toutefois heureux de voir la belle ambiance et le public nombreux dès l'ouverture officielle de ce Grand Prix de France, où 15 000 spectateurs étaient dans les gradins pour l'accueil des pilotes.
Ça existe au Mans, que au Mans, parce que pour faire le tour du monde, c'est clair que c'est juste exceptionnel et un peu de fierté française, ça fait plaisir.
Les qualifications et la sprint race seront à suivre ce soir. Quant au Grand Prix de France de MotoGP, il se disputera demain soir pour nous. Le départ sera donné à minuit, heure de Nouméa.
Il y a du cyclisme aussi avec la première étape du Tour d'Italie.
Et c'est le Danois Mats Pettersen qui s'est adjugé la victoire pour cette première journée du Giro. Au terme d'un parcours de 160 km, il a devancé au sprint le Belge Wout van Aert. Pettersen s'empare donc du maillot rose de leader. Le meilleur français, c'est Romain Bardet. Il est en 16e position au classement général. Le peloton prendra part ce soir à un contre-la-montre de 13,7 km dans la ville de Tirana, en Albanie, où s'était lancé ce Tour d'Italie 2025, le premier grand tour à étapes de la saison.
Et on reste en Italie. Pour parler tennis, le deuxième tour des Masters de Rome.
Côté français, Arthur Fils s'est qualifié pour le troisième tour en balayant le néerlandais Tellen Griekspoor en 2-7, 6-2, 6-2. En revanche, Alexandre Muller s'est incliné face au grec Stefanos Tsitsipas, 6-2, 7-6. Il y avait un duel franco-français, mais Hugo Humbert a abandonné face à Corentin Moutet. À 3 semaines de Roland-Garros, Humbert souffre d'une blessure à la main droite. Il n'a pas voulu poursuivre l'aventure sur la terre battue italienne pour se préserver en vue de l'Open parisien. Du côté français des têtes de série. L'Espagnol Carlos Alcaraz est passé sans problème face au Serbe Dusan Lajovic, 6-3, 6-3. Chez les dames, qualification sans problème de la Bélarusse Arina Sabalenka, tête de série numéro 1 pour le troisième tour, aux dépens de la Russe Anastasia Potapova. L'Américaine Coco Gauff, elle, a dû s'employer pour venir à bout de la Canadienne Victoria Mboko, 3-6, 6-2, 6-1.
En métropole, on parle de football. La 33e journée de Ligue 1 sera à suivre à partir de demain matin.
Ouais, toutes les rencontres en simultané ce dimanche dès 6h pour nous, et notamment le FC Nantes qui sera en déplacement à Auxerre. Saint-Étienne, le 17e du classement, toujours dans la course au maintien, sera pour sa part sur le terrain de Reims. Concernant le haut du tableau, Marseille ira au Havre, Nice sera en déplacement à Rennes, Monaco affrontera l'Olympique Lyonnais et Lille jouera sur la pelouse de Brest. Encore des matchs au programme, Toulouse, Lens, Angers, Strasbourg. Et puis un duel des extrêmes. Le Paris Saint-Germain se déplacera chez la Lanterne Rouge Montpellier pour cette avant-dernière journée du championnat de France. Donc, je le rappelle, tous les matchs à suivre en simultané demain matin à partir de 6h.
Et on suivra aussi sur les terrains de rugby la 23e journée du top 14.
Ce soir, à partir d'1h30 du matin, 4 affiches à suivre. Lyon qui accueillera la section paloise. Le Racing 92 qui recevra Bayonne, le 4e du classement. Tandis que Vannes, le club breton, actuellement Lanterne Rouge, sera opposé à La Rochelle. Il y aura également un duel de mal classé. Perpignan, le 13e, recevra le Stade Français, 12e. À 6h05, demain matin, un grand choc. Le RC Toulon sera opposé au Stade Toulousain. Et en conclusion de cette 23e journée, lundi matin, Montpellier accueillera l'Union Bordeaux-Bègles, 2e du championnat de France.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Et venons-en au sport en Calédonie. En ce long week-end prolongé du 8 mai, les rendez-vous sont peu nombreux. Toutefois, il ne faudra pas manquer un grand rendez-vous de natation. C'est la 29e édition du meeting Total Energy du CNC. Aujourd'hui, à partir de 8h, un meeting avec deux invités de marque, Mewen Tomac et Emma Terebo, qui fait son grand retour en Calédonie.
Rentrer pour le meeting Total Energy, c'est spécial pour moi parce que c'est une compétition que j'ai faite plusieurs fois et étant petite. Donc revenir à mon club de cœur, mon club formateur, c'est tout pour moi parce que j'ai fini ma carrière après les Jeux de Paris de cet été, mais en même temps c'était de boucler la boucle en revenant ici et faire ma dernière compétition au CNC.
Emma Terebo, qui était notre invitée dans le Mac des Sports lundi, un magazine à retrouver en podcast sur notre site internet www.rrb.nc. Nous suivrons aussi ce week-end la Coupe de Calédonie de surf en voile et puis il avait aussi, Calédonie de surf et puis en voile le Challenge Sirius organisé par le CNC. Ce sera la deuxième manche de cette compétition avec un parcours côtier. 7h27 après le sport, on fait le point sur la météo de ce samedi.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous Nicolas.
Oui, alors tout d'abord c'est vigilance jaune pour vent violent ou loyauté la nuit prochaine pour un alizé de sud-est qui se renforcera autour de 25 nœuds avec des rafales jusqu'à 40 nœuds qui font à peu près 70 km/h. Alors ce matin, sur la pointe sud, l'île des Pins et les loyautés, les passages nuageux seront fréquents et déposeront des averses parfois fortes. Sur les autres régions, le soleil dominera, l'alizé de sud-est soufflera de 15 à 20 nœuds, il se renforcera autour de 20 nœuds sur l'ouest et les Loyautés. Cet après-midi, le ciel restera nuageux sur l'extrême sud, l'île des Pins et les Loyautés, où des averses soutenues seront encore possibles. Ailleurs, le soleil sera davantage présent, mais il restera contrarié par des nuages et averses qui se formeront le long des côtes, en particulier sur la côte est. L'alizé de sud-est se renforcera partout entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales de 30 à 35 nœuds. Les températures maximales seront assez stables, avec 26 à 30 degrés Léo.
Merci beaucoup Nicolas, merci à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve dans une demi-heure à 8h pour un dernier point sur l'actualité dans la matinée.